Salut, c'est Seb du blog Comment faire du cinéma. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de ce podcast, je vous invite à le faire dès maintenant, puisqu'il pose les bases de ce que l'on va aborder dans cette deuxième partie. Je vous ai mis le lien du podcast Comment dépasser la peur de se lancer dans le cinéma, partie 1, juste en dessous, dans la description. Vous pouvez également télécharger, si vous le désirez, mon guide des 7 erreurs, qui propose dans sa dernière partie un exercice, deux exercices même, plutôt formidables, que l'on abordera plus précisément à la fin de ce podcast, justement. Sur ce, bienvenue dans la deuxième partie de ce premier podcast intitulé « Comment dépasser la peur de se lancer dans le cinéma », partie 2. Alors, si vous avez bien écouté la première partie de ce podcast, vous vous souvenez certainement que je vous laissais sur un petit cliffhanger du pauvre, à savoir la promesse d'un conseil absolument génial. Et que je vous disais que, même si la question de Benoît reste pertinente, entre se demander comment se lancer dans ce milieu quand on sait que sans réseau, il y a très peu de chances de réussite, et affirmer que faire du cinéma, c'est impossible et que ça ne vaut pas la peine, finalement, il n'y avait qu'un pas. Alors, je vous invite vraiment à bien écouter ce qui va suivre dans ce podcast, là, maintenant, parce que c'est vraiment des choses que moi, j'aurais tellement aimé avoir... j'aurais tellement aimé entendre ça au début de mes études de cinéma, sincèrement. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour vous dire que si j'ai fait ce podcast en deux parties, c'est parce que, en dehors de l'aspect pratique lié au temps d'écoute, j'ai conscience que cette deuxième partie va certainement déconcerter certains d'entre vous. Si c'est votre cas, ne vous prenez pas la tête, et essayez sincèrement de vraiment faire les exercices proposés, même si certains vous paraissent trop approfondis ou conceptuels, parce que vous avez vraiment tout à y gagner. L'idée dans cette deuxième partie, ça va vraiment être de laisser de côté un temps les on-dits et les statistiques, et de vraiment revenir à vous. Tout cela pour vous permettre de bien structurer votre projet dans votre tête et de dépasser complètement la peur de vous lancer. Concrètement déjà, il faut bien se rendre compte que la question que pose Benoît est uniquement et dangereusement même focalisée sur le comment. Comment, alors que je suis un parfait débutant, je vais pouvoir me faire une place dans un milieu qui ne fonctionnerait a priori qu'au réseautage. En gros, c'est ça. Et du coup, écoutez bien, voilà le fameux conseil. Imaginons qu'en écoutant mon podcast, Benoît, il se rende compte que son désir profond, c'est de devenir une personne publique. Benoît, tu veux devenir célèbre. Ok. Eh bien, si tu te demandes comment, dès maintenant, je t'ai prédit une carrière bien plus courte et bien plus éphémère que si tu te demandes juste pourquoi. Pourquoi, Benoît, tu veux devenir célèbre? Et pour dépasser votre peur de vous lancer dans le cinéma, dans votre projet, dans quoi que ce soit, vous allez faire exactement pareil. C'est très important de comprendre ça. Parce que finalement, c'est ça qui va vous permettre de visualiser votre projet personnel sur le long terme. De vous inscrire dans un processus de long terme, justement. Dites-vous que vous avez tout à gagner à vous intéresser à votre pourquoi dès maintenant et absolument tout à perdre à vous focaliser uniquement sur le comment. C'est vraiment la meilleure façon pour clarifier au mieux ce que vous pensez et aiguiser vos choix, finalement. Avec le comment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tuer le rêve dans l'œuf quelque part, et il suffit que votre projet personnel ait une certaine envergure pour que ça ait besoin de macérer un petit peu. C'est normal, et ne pas le prendre en compte, ce serait dans tous les cas absolument contre-productif. Dites-vous que dans tout ce qui touche de près ou de loin le domaine artistique et créatif, vous allez avoir besoin d'un pourquoi fort et solide. Le comment doit arriver après, uniquement pour préciser vos objectifs en cours, déjà bien définis, et confronter ce que vous voulez au concret finalement. Et le meilleur moyen pour se mettre dans cette dynamique dès maintenant, ça va être de partir de vous d'abord. Pas d'une statistique, pas d'une soi-disant réalité. Juste de vous. Parce que sinon, quoi que vous fassiez, tout votre parcours va être biaisé et faussé par votre idée de départ. Voilà, donc maintenant qu'on a un petit peu de matière, je vais vous proposer un exercice pratique assez simple. Je vous invite à prendre une feuille de papier ou ouvrir un bloc-notes sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Et vous allez juste écrire et lister avec sincérité le plus simplement possible là où les différentes peurs que vous ressentez quand vous pensez à votre projet personnel. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement? Essayez d'être le plus précis possible afin d'en dégager des choses qui soient assez concrètes. Avant de commencer l'exercice, afin de vous aider, dites-vous qu'en règle générale, on tourne autour de ces 5 peurs principales. Qui reviennent encore et toujours, et ça peut être extrêmement utile de bien les connaître. La première peur, ça va être la peur de ne pas être aimé, ou d'être rejeté, c'est pareil. La deuxième peur, ça va être la peur de manquer. La troisième, la peur de ne pas être à la hauteur. La quatrième, la peur de perdre. Et la cinquième, la peur de gagner. Identifiez ce qui se rapproche le plus à la vôtre, ou au vôtre, et précisez-les. Par exemple, si comme Benoît, a priori, on est proche de la peur de manquer, demandez-vous pourquoi, et écrivez-le juste à côté. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Une fois que vous avez terminé l'exercice, et je vous invite vivement à mettre sur pause le podcast parce que ça va être compliqué de faire l'exercice en écoutant mon débit de parole assez rapide, donc mettez sur pause. Mais du coup, dès que vous avez terminé, le challenge, ça va être de vous imaginer en Yoda, le petit bonhomme vert de la saga Star Wars, et de lire les peurs que vous avez identifiées en essayant de les ressentir réellement l'espace d'un instant. C'est plus important que ça en a l'air. Ressentez-les vraiment, et ensuite vous allez tout simplement les accepter. Parce que finalement, ces peurs que vous ressentez, elles font partie de la personne que vous êtes. Elles participent activement à ce qui va faire votre spécificité, votre unicité même. Donc c'est ok. c'est pas grave, vous allez juste accepter d'avoir ces peurs et vous êtes ok avec ça. Ok, donc maintenant que vous avez bien vos peurs sous les yeux et que vous les avez identifiées précisément, je vais vous poser trois questions spécifiques. Et je vous invite vivement à les noter parce que le jour où moi j'ai fait cet exercice pour la première fois, son efficacité m'avait vraiment frappé. La première question c'est: qu'est-ce que ces peurs vous ont déjà coûté dans votre vie jusqu'à maintenant? Alors la pensée en ressenti, en événement et en opportunité que vous avez loupé par exemple. La deuxième question c'est: qu'est-ce que vous pensez que cela va vous coûter si jamais vous ne changez pas? Alors pour répondre à ça, essayez de vous projeter et écrivez ce que vous imaginez tout simplement. La troisième question c'est: comment votre vie va être impactée si vous changez? Et décidez de travailler sur ces peurs. Alors là, vous vous projetez une nouvelle fois et vous imaginez votre vie sans aucune de ces peurs. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le podcast sur pause pour vous concentrer sur les réponses à ces trois questions. Et du coup, dès que vous avez fini, je vous invite à définir dès maintenant une toute petite action quotidienne que vous allez faire pour travailler sur les peurs que vous avez identifiées. Ça va vous permettre de tirer profit au maximum des exercices qu'on vient de faire dans ce podcast. Personnellement, ça fait plusieurs années que je fais ça et franchement, ça fait une différence assez énorme. Et ça peut être n'importe quel exercice. L'essentiel est vraiment que cela engendre une progression entre là où vous êtes et votre idéal. Par exemple, dites-vous qu'il y a quelques années de ça, je me suis passionné pour les grands orateurs et la prise de parole. Alors ça m'a pris comme ça. Le souci, c'est qu'en plus d'être un énorme introverti, moi je souffre depuis tout petit de ce qu'on appelle l'oclophobie. Alors dites-vous en gros que c'est la peur de la foule. C'est vraiment un truc qui sert à rien, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, plus jeune, même les toutes petites foules me terrorisaient à mort. Ça s'est traduit chez moi par une forme de timidité, exacerbée dès qu'il s'agissait de me retrouver face à plusieurs personnes. D'ailleurs, durant mes études, j'essayais de le cacher, mais... à chaque fois que je me retrouvais à devoir parler à plus de 5 personnes, j'étais grillé à mort et à des kilomètres. Bref, tout ça pour vous dire qu'encore aujourd'hui, je m'exerce tous les jours avec tout et n'importe quoi. À un moment même, je suis jusqu'à aller m'inventer une destination fictive comme prétexte pour demander mon chemin au fil d'attente devant les commerces. En gros, je posais ma question en essayant de regarder le plus de personnes dans les yeux durant l'interaction pour les inviter à s'investir un minimum. Le but était de me sentir à chaque fois un petit peu plus à l'aise que la fois précédente. Alors ça pique au début, ok, mais ça fonctionne. Donc, récapitulons rapidement. Vous listez vos peurs le plus précisément possible, vous êtes ok avec le fait de les avoir, vous répondez aux trois questions: qu'est-ce que ça vous a coûté, qu'est-ce que ça va vous coûter et quel impact si vous changez, et enfin, vous définissez une action quotidienne pour travailler sur ces peurs qui vous empêchent de vous lancer. Parce que dites-vous bien une chose, dites-vous que toute amélioration est toujours, toujours, toujours une question d'habitude. Et que si on choisit de penser vraiment comme ça, cette notion abstraite qu'est la réussite et surtout notre progression au sein de notre projet personnel va se mettre en place tout seul en fait. Et ne tient finalement qu'à très peu de choses, si ce n'est un engagement fort et un investissement quotidien. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que durant le podcast, je n'ai cessé de parler de projet personnel. Bah, ce n'est absolument pas un hasard. C'est parce que si les différentes compétences que requièrent les métiers de l'audiovisuel et du cinéma s'apprennent de mille et une façons, ces métiers ne reposent pas sur des process très définis, mais plutôt sur la vente continuelle de ce que vous êtes, de vos spécificités et de votre projet personnel finalement. Si vous comprenez bien cette dynamique et que vous apprenez à vous vendre, on va obligatoirement vous faire confiance à un moment donné. Ensuite, ce sera une histoire de valeur perçue par rapport à ce que vous avez proposé et aux tendances du moment. Si la mayonnaise prend, des portes vont s'ouvrir, sinon il faudra simplement recommencer. Et voilà, c'est donc la fin de ce podcast. Benoît, c'est à toi de jouer. J'espère sincèrement vous avoir aidé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en me laissant un commentaire juste en dessous ou directement dans la page à propos du blog commentfairedusinema.com et vous mettez bien un tiret entre chaque terme. Et essayez vraiment, si ce n'est pas encore fait, de faire l'exercice du listing, des trois questions et de réfléchir à votre action quotidienne. C'est vraiment la base du travail d'introspection et c'est quelque chose qui peut vous servir toute votre vie. Je suis d'ailleurs toujours étonné que si peu d'organismes de formation s'y intéressent réellement en France. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide d'introduction gratuitement, disponible sur le blog et dans la description juste en dessous, qui recense cette erreur chronique à ne surtout pas faire si vous souhaitez faire du cinéma. Avec ce guide, vous allez pouvoir faire un exercice complémentaire aux exercices qu'on vient de faire, dont un extrêmement efficace qui consiste à écrire à la personne que l'on sera dans 10 ans. Alors en dehors de l'ancrage émotionnel évident, cette lettre va vous permettre de naturellement faire ressortir vos véritables objectifs et finalement de vous regarder droit dans les yeux. Puis enfin, pour revenir à la notion de vocation qu'on a vue dans les premiers podcasts, vous trouverez aussi dans ce guide d'introduction la manière la plus simple d'identifier ce qu'on appelle votre Ikigai. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méthode japonaise qui signifie raison d'être ou mission de vie, que personnellement j'ai découvert grâce à un bouquin hyper inspirant d'Hector Garcia et de Frances Miralles, dont le titre en français est Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Ben, je vous ai mis le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors, le concept nous vient tout droit de l'île d'Okinawa, qui est recensée comme faisant partie des 5 zones bleues identifiées dans le monde. Et je ne parle pas de la place de parking, mais bien de la zone bleue comme lieu géographique où l'espérance de vie est très nettement au-dessus de la moyenne. Pour info, l'un des records se situe bien à Okinawa et venait de fêter ses 114 ans au moment de l'étude. Sur cette très jolie note, je vous dis à très vite sur le blog et dans tous les cas, n'oubliez pas, Vive le cinéma.